Juliette Rangeval.
Les pompiers, j'écoute.
Allô, les pompiers, vous existez toujours?
Oui, on existe toujours et on sera toujours là. Il y a besoin de secours?
Non.
Bah, si tu veux la rassurer, tout va bien. Au revoir.
Merci d'exister, au revoir.
Bonjour, ils font rêver les enfants. On les décrit souvent comme les super-héros du quotidien, la cape en moins. Mais les pompiers volontaires s'inquiètent pour leur avenir, comme en témoigne cette vidéo que vous entendez, vue 1 200 000 fois sur Internet. Réalisée par des pompiers des Ardennes, elle s'appelle « Un monde sans pompiers ». En France, les pompiers volontaires, des bénévoles, sont partout, dans les campagnes principalement, dans les petites villes, les grandes banlieues. Cela représente 196 000 personnes, avec des profils très divers, comme l'explique le contrôleur général Éric Florès. Il est chargé de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Historiquement, le volontaire a toujours été un citoyen engagé au sein de sa communauté, au sein de son village, pour aller porter secours. Alors c'est le boucher, le charcutier, le garagiste qui part au bip, comme on a pu le voir à l'époque au son du tocsin. Maintenant ils ont tous des bips à leur ceinture. On les fait partir, on les fait quitter leur travail pour aller porter secours. Et sans eux, il n'y a plus de secours dans les territoires ruraux.
Une France sans eux, est-ce que c'est possible? Les sapeurs-pompiers font face à une crise des vocations en France, parce qu'en Allemagne où l'on retrouve notre correspondant Julien Méchaussi, ils sont 1 million à s'engager en plus de leur travail quotidien. Chez vous, Julien, les vocations ne semblent pas se tarir.
En effet, ce chiffre que vous venez d'évoquer, Juliette, 1 million de pompiers volontaires, a de quoi impressionner sur une population de 83 millions d'habitants, ce qui donne à peu près un pompier pour 80 Allemands. Et seule l'Autriche fait mieux au sein de l'Union européenne, avec un pompier pour 43 habitants. Et le président de la Fédération allemande des pompiers, Hartmut Zips, a même déclaré récemment que le monde entier enviait le nombre de ses bénévoles.
Julien, comment est-ce qu'on peut expliquer cet attrait pour les pompiers volontaires?
Eh bien, comme souvent ici, c'est le fédéralisme et la forte décentralisation qui permettent un maillage très important de l'ensemble du territoire. Ce sont les villes et les communes qui sont responsables des pompiers, avec des maires donc en première ligne, tenus de maintenir un nombre suffisant de volontaires. Si les grandes villes sont bien sûr contraintes d'avoir des casernes de pompiers professionnels, l'Allemagne profite également de la forte vie associative dans les campagnes, car dans chaque village en Allemagne, vous trouverez par exemple une Heimatverein, une association de défense du patrimoine, des associations de sport, de chant et j'en passe, au sein desquelles pratiquement tous les habitants s'engagent. Et être pompier volontaire, Juliette, fait également partie de cet engagement citoyen très dynamique ici.
Et c'est un engagement qu'on retrouve également chez les jeunes, Julien.
Exactement, les groupes de jeunes pompiers volontaires se portent très bien avec 200 000 membres et selon les Länder, les enfants peuvent commencer leur carrière de pompier entre 10 et 12 ans et à 18 ans, eh bien ils rejoignent les grands, un véritable vivier qui explique en grande partie le fort engagement parmi les pompiers volontaires. Et ces groupes de jeunes d'ailleurs organisent régulièrement démonstrations et exercices ouverts au public pour susciter de nouvelles vocations lors de fêtes de village par exemple, et j'ai déjà eu l'occasion d'y assister et je peux vous le confirmer, Juliette, en voyant les yeux qui brillent des enfants, ça marche.
Il n'empêche, chez les Allemands aussi, on sent poindre l'inquiétude. En cause, une directive européenne de 2003, appuyée par un arrêt de la Cour de justice européenne du 21 février dernier, qui peut faire jurisprudence. Cette directive, elle concerne le temps de travail et le temps de repos des travailleurs. Et cette directive, elle pourrait concerner les sapeurs-pompiers volontaires, qui seraient alors vus comme des travailleurs, pas comme des bénévoles, comme l'explique Éric Florès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Chacun, après son travail principal, doit avoir un repos obligatoire de 11 heures. C'est-à-dire toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent, doivent avoir, après leur journée de travail, un repos de sécurité obligatoire de 11 heures, sans avoir le droit d'effectuer une activité salarié, quelle qu'elle soit. Ce qui veut dire que dans notre volontariat, le garagiste ou l'artisan, le boulanger qui est pompier volontaire, il pourra continuer à partir au BIP pendant son activité principale, s'il sera disponible. Par contre, à 18h, lorsqu'il cesse son activité principale, il a un repos de sécurité de 11h obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se mettre disponible et on n'a plus de secours dans la ruralité. Voilà.
Alors les pompiers français, mais aussi allemands, autrichiens et néerlandais ont signé une motion commune qui doit être présentée aux autres fédérations européennes avec l'espoir à terme de voir adopter une nouvelle directive ciblée sur les services de secours et leurs spécificités.
27 mai 1952, la communauté européenne de défense est créée sur papier.
Par les premiers jours ensoleillés d'un été tardif, s'ouvrait devant l'Assemblée le débat de la CED, le plus important sans doute qui soit venu à la Chambre depuis 1945. Ouvert par M. Jules Moc, le débat ne devait pas s'engager au fond. par 319 voix contre 264, l'adoption de la question préalable entraînait le rejet de la CED.
C'est un serpent de mer vieux de 65 ans. L'idée d'une défense européenne. Au début des années 50, la CED, la Communauté Européenne de Défense, divisait déjà l'opinion en France. Le sujet est redevenu d'actualité à la veille des commémorations de l'armistice de 1918. Les relations entre le président français et son homologue américain se sont singulièrement tendues. Dans un tweet, Donald Trump se dit insulté par l'idée d'Emmanuel Macron de constituer une armée européenne. Une idée qui fait son chemin, cependant, puisque cette semaine, Angela Merkel, la chancelière allemande, a évoqué une véritable armée européenne dans un discours devant le Parlement de Strasbourg. C'est l'occasion de faire le point sur ces tensions autour de la défense de l'Europe avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette nouvelle colère de Donald Trump ?
Peu importe que Trump ait fait preuve de la mauvaise foi qui lui est coutumière en feignant de croire que cette armée européenne était dirigée contre les États-Unis. Emmanuel Macron n'a rien dit de tel. Mais cette passe d'armes traduit une divergence profonde entre Trump et Macron. Le premier entend que la défense européenne continue à être assurée dans le cadre de l'OTAN que les États-Unis contrôlent, et le second appelle à s'affranchir progressivement de cette dépendance. Le vrai bras de fer est là.
Oui, mais Daniel, est-ce que le président américain ne rêve-t-il pas de se désengager ?
Oui, mais seulement financièrement. Un élément déterminant de la puissance des États-Unis est évidemment le rôle qu'il joue dans la défense de l'Europe. Après avoir initialement jugé obsolète l'OTAN, Trump entend désormais que le fardeau financier soit mieux partagé entre l'Europe et l'Amérique. Il est d'ailleurs convenu que les budgets européens de la défense atteignent au moins 2% du PIB. Certains pays comme l'Italie et surtout l'Allemagne en sont très loin. D'où l'irritation de Donald Trump, qui par ailleurs n'est pas hostile à une implication plus grande des Européens dans leur défense, pour peu que celle-ci ne se construise pas hors du cadre de l'Alliance Atlantique.
Est-ce qu'on est sur la voie d'une Europe de la défense indépendante ?
Il est trop tôt pour l'affirmer. Il y a, surtout depuis le traité de Lisbonne de 2009 et la création de la politique de sécurité et de défense commune, une volonté indéniable d'autonomiser la défense européenne, une volonté de réunir les conditions pour que l'Union se dote un jour de capacités opérationnelles propres, avec l'objectif de renforcer son rôle international en matière de gestion des crises, de maintien de la paix, de prévention des conflits et de coopération industrielle en matière de défense. Le traité européen prévoit même une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression armée de l'un des membres de l'UE. Une clause que Paris avait d'ailleurs invoquée après les attentats de novembre 2015. Mais elle est assortie d'une restriction de taille. L'OTAN reste le fondement de la défense collective des pays de l'UE et l'instance de sa mise en œuvre. Car l'OTAN a bien pour objet de défendre le territoire européen par la mise sous commandement atlantique des forces armées européennes et sous la protection ultime du parapluie nucléaire américain. Et si l'on accepte quelques tentatives comme l'Eurocorps, à l'origine franco-allemand, resté à l'état embryonnaire, il n'y a pas de force intégrée proprement européenne. Pas non plus de mise en commun des moyens de défense. Pour l'instant, la réalité est le chacun pour soi en matière d'armement.
Le chacun pour soi en matière d'armement ? Est-ce que vous avez des exemples ?
Eh bien, le fait que 5 pays européens, Pays-Bas, Danemark, Italie, Royaume-Uni et tout récemment Belgique, ont fait le choix de l'avion F-35 américain pour renouveler leurs forces aériennes plutôt que d'acheter des Rafales français ou même des Eurofighters européens. Ce n'est pas de bon augure pour le projet franco-allemand d'avions du futur.
Pourtant, 10 pays viennent intégrer l'initiative européenne d'intervention française et dedans, deux poids lourds militaires de l'Europe, la France et le Royaume-Uni.
Oui, c'est vrai, mais d'une part, cette initiative française destinée à faire émerger une culture stratégique et une planification permettant de conduire un jour des opérations militaires conjointes ne se fait pas dans le cadre de l'Union européenne afin d'y inclure le Royaume-Uni post-Brexit et un Danemark qui ne participe pas à l'Europe de la défense. D'autre part, malgré l'enthousiasme d'Emmanuel Macron, les partenaires de Paris y voient une construction à la française destinée à compléter d'autres initiatives prises cette fois dans le cadre de l'OTAN. Il existe plusieurs formes de coopération entre pays au sein de l'OTAN, autour de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou de l'Italie. La France, elle, préfère jouer hors de l'OTAN la carte de cette initiative européenne d'intervention.
Et en conclusion, Daniel, vous diriez que Paris est peu suivi en matière de défense européenne indépendante ?
Même si la chancelière allemande exprimait il y a seulement 2 jours son soutien à une véritable armée européenne au sein de l'OTAN, Disons que la plupart des pays de l'Union sont au moins prêts à réfléchir sur les moyens de coopérer indépendamment des États-Unis, étant bien entendu qu'une politique de défense européenne unique n'est pas envisageable tant que les nations de l'UE auront des impératifs de sécurité et surtout des intérêts géostratégiques divergents. D'où ces diverses idées de coopération à la carte ou encore à géométrie variable. Reste une certitude, personne n'est prêt, hormis la puissance nucléaire régionale qu'est la France, à se passer du parapluie nucléaire américain en abandonnant l'OTAN.
À bientôt Daniel.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe vous emmène au théâtre des Riches Clairs. C'est à Bruxelles pour voir Europa unie dans l'oubli. La compagnie Equa a imaginé une pièce qui mêle théâtre, danse et vidéo pour un scénario catastrophe. Un groupe terroriste réussit à entrer dans le Parlement européen et à tuer tous les eurodéputés. Chacun, chacune réagit à la nouvelle tombée sur les réseaux sociaux. C'est une réflexion sur l'Europe et son avenir, sur la peur aussi et sur les dérives du net. Lax Milota était dans la salle.
Vous étiez là en train de me dire, mais non, c'est bon, arrête de flipper, mais je vous l'avais dit.
Sur scène, quatre jeunes femmes. C'est un huis clos, nous sommes dans leur salon à une soirée et elles font la fête entre copines lorsque la nouvelle tombe sur les réseaux sociaux. Un groupe terroriste aurait tué plusieurs eurodéputés au sein du Parlement. Peu à peu, la tension monte. Les jeunes femmes consultent à la fois les sites d'information traditionnels et Facebook. Elles en arrivent à la conclusion que tous les parlementaires ont été tués et que le groupe terroriste va imposer sa loi dans toute l'Europe. La rumeur veut ensuite que les terroristes exigent le sacrifice d'une vie par immeuble ou alors ils tueront tout le monde.
Mais je sais pas si c'est vrai ou pas, si je dois y croire ou pas, qu'est-ce qu'on fait ? Cléo, qu'est-ce qu'on fait ?
L'ambiance est anxiogène. Pour la metteuse en scène, Lucie Matteau, cette pièce est un avertissement.
En fait, on choisit d'avoir peur. On choisit de se laisser aller à la peur. Et c'est une mise en garde contre ce sentiment, je vais dire, de prévenir les gens, de se dire « Ok, on est dans un climat qui fait peur, on fait tout pour nous faire peur, mais regardez jusqu'où on peut aller et jusqu'où, évidemment, il ne faut pas aller. »
Face aux événements, les personnages s'interrogent sur l'Europe, la démocratie, le capitalisme ou encore le passé colonial de certains pays, avant de sombrer dans la paranoïa. La fin, que nous ne dévoilerons pas ici, laisse les spectateurs un peu sous le choc. À quelques mois des élections européennes, Europa, unie dans l'oubli, propose une réflexion inquiétante mais originale sur le devenir de l'Union européenne.
Money, money, money. Tu es la raison de vivre des puissants et la mort des invisibles.
Et c'est à voir à Bruxelles jusqu'au samedi 24 novembre au théâtre des Riches Clairs.
Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand.
Aujourd'hui, c'est le troisième jeudi du mois de novembre et c'est la tradition, c'est le jour du Beaujolais nouveau. Près de la moitié de la production partira à l'export. Le marché du vin est de plus en plus un marché international. Et les grandes écoles de commerce françaises qui proposent une spécialisation dans les métiers du vin mettent désormais sur pied des cours en anglais pour des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Les écoles sont implantées dans les grandes régions de production, Burgundy School of Business, Master Vin et Champagne à Reims, Institut des Hautes Études de la Vigne et du Vin à Montpellier, Wine and Spirit Academy de la Kedge Business School à Bordeaux. C'est là, dans ce terroir ancestral, que Frédéric Lebel est allé rencontrer des étudiants tournés vers le Nouveau Monde.
Bienvenue dans le marché global du vin. À la Kedge Business School, on parle de winemaker, du vin de l'old world et du new world. Entendez, l'Europe et les nouveaux producteurs. En 40 ans, tout a changé. On compte désormais une centaine de pays avec des vignobles dans le monde. Jérémy Kuckerman, directeur de la Wine and Spirit Academy.
On va dire que ce qu'on appelle le old world, qui est principalement l'Europe, était prépondérant il y a 40 ans. C'était le début du succès des États-Unis. L'Argentine était déjà un pays producteur, mais à l'époque, c'était une production qui était encore assez archaïque au niveau des méthodes de production, alors qu'aujourd'hui, ils sont plutôt à l'inverse, à la pointe de la technologie. En revanche, c'est vrai que les autres acteurs du New World étaient un peu au balbutiement de leur succès. Et donc, quand on étudiait le vin, si on avait une très bonne vision de l'Europe et de quelques autres pays, je pense qu'on avait une bonne photographie globale, alors qu'aujourd'hui, on est obligé de s'ouvrir à énormément d'autres pays, avec en plus l'émergence récente du marché asiatique, et notamment de la Chine.
Dans les couloirs de l'école, on croit surtout des étudiants français, mais le master spécialisé en langue anglaise dans les métiers du vin compte 50% d'étudiants étrangers qui viennent de Turquie, d'Inde, de Thaïlande ou du Canada. Et c'est au cœur du terroir français qu'on forme ses futurs commerciaux à conquérir les nouveaux marchés. Un étage plus haut, le cours de méthodologie et marketing commence avec la professeure d'économie Florine Liva-Pécheux.
Good morning. We spend 6 hours together today.
L'expertise de Florine recouvre la dynamique des prix, mais aussi la construction de la réputation d'un produit.
C'est un produit complexe, c'est un produit qu'il est difficile d'évaluer, il est difficile de le déguster, il faut des compétences pour ça. Mais le consommateur en face, lui, il ne les a pas forcément. Et donc c'est un enjeu important, effectivement, de comprendre que ce consommateur, et c'est pas du tout péjoratif, c'est pas un connaisseur, et il faut réussir à lui traduire les messages, à les rendre audibles, intelligibles, ce qui est un challenge important.
Devant elle, une classe d'une cinquantaine d'élèves écoute studieusement. Dans un an, ils seront sur un marché qui ne connaît pas la crise.
Je vais leur montrer des informations qui viennent d'être publiées aujourd'hui même sur le taux de chômage en Allemagne dans la filière vin. Si on parle seulement des gens qui travaillent dans le vin aujourd'hui, seulement 100 personnes sont au chômage. Ça veut dire que c'est des gens qui sont juste en train de changer de boulot. C'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel entre deux emplois. Ce n'est pas des gens qui sont, sur le long terme, sans emploi.
La plupart des étudiants étrangers inscrits dans ce master ont déjà eu une expérience professionnelle. Mahir, un jeune Turc de 33 ans, a quitté son travail dans une grande chaîne britannique de vente au détail pour se consacrer à sa passion, le vin, et venir à Bordeaux était une évidence.
Quand vous parlez de vin de qualité en Turquie, c'est tout de suite le nom de Bordeaux qui vient. Moi, j'ai choisi Bordeaux parce que c'est la capitale du vin depuis des milliers d'années, depuis le XIIIe siècle et l'établissement du château Pape Clément. Mon projet, c'était de devenir un ambassadeur du vin de Bordeaux. Je ne suis pas français, je ne parle pas vraiment votre langue, mais mon cœur parle français, parce que j'aime votre cuisine, vos vins, vos traditions. Tout ça, ça résonne en moi. C'est pour ça que je veux rester à Bordeaux, pour représenter le Bordeaux du mieux que je peux dans le domaine de l'export international.
Bordeaux, c'est un nom, mais c'est aussi la promesse de pouvoir rencontrer tous les acteurs de la filière, du maître de chez à l'œnologue, en passant par le négociant ou le bouchonneur. Souda est thaïlandaise, elle a bien l'intention de prolonger l'année prochaine ses études avec une formation en vinification. La jeune femme qui a été gérante de restaurant en Asie a emprunté des chemins de traverse pas banals via le Japon pour découvrir les vins français.
Je commence à apprécier le vin quand je travaillais au Japon. Et là-bas, on a aussi une sommelière. Elle m'a appris beaucoup de choses sur le vin et le saké aussi. Et elle m'a amené à beaucoup de places pour déguster le saké, le vin et même des goûts sur le vin en japonais. C'est un petit peu difficile, mais bon, on se débrouille.
Si la consommation individuelle de vin de chaque Européen est à la baisse, en revanche, la consommation mondiale est en hausse et la marge de progression est considérable quand on sait que seuls 1,5% des adultes chinois boivent aujourd'hui du vin.
Is it okay for you? Okay, that's a break now.
La nouvelle promotion qui sortira en juin gardera sans doute en mémoire le goût de quelques verres de Bordeaux mémorables, une éducation qui servira aussi à nourrir de nouveaux crus.
Un reportage de Frédéric Lebel à la Kedge Business School de Bordeaux. Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous retrouvez sur le site rfi.fr, onglet émissions. Il vous reste à cliquer sur Accent d'Europe pour retrouver toutes nos émissions. Et puis Accent d'Europe, c'est aussi sur les réseaux sociaux. À la réalisation, Françoise Grelot.